venu dans l'heure noire de Westrakhradu. Où que vous soyez, à toute heure du jour comme de la nuit, Max O'Bion va vous embarquer dans ses histoires noires. Parfois gris-rose, parfois sensible, parfois déjanté, avec des pointes d'humour. Noir comme il se doit. Vos oreilles sont-elles prêtes? Oui? Alors envoyez. Glande, une nouvelle de Max O'Bion, lue par Chantal Bidet. Encore heureux que je n'ai pas à me taper le RER tous les jours. Au bout de 10 minutes, tout me gonfle. Je rentre ma colère et ma compassion envers tous ces automates zombies qui me côtoient. Il fallait qu'il habite au fin fond du 93, mon sujet. Des fois, j'en ai ma claque de bosser pour un magazine qui répugne à se faire financer par la fine fleur de la bagnole, du parfum et, que sais-je encore, de la merde en bar. Et qui oblige ses journalistes à vivre le quotidien d'un quidam lambda. L'indépendance, coco, ça coûte. Les slogans abscons affichés sur les murs du bureau m'insupportent, comme cet autre. Regarde tes pieds, il t'indique la direction. Après 8 stations, compressées autour de la barre, je saute sur une place assise quand elle se libère. Le black à qui je l'ai soufflé me montre les dents. Il m'aurait bouffé, ce con. Je déplie enfin mon libé à la une duquel s'étale le portrait de Bernard Renault que l'on a retrouvé hier dans le jardin de son hôtel particulier, refroidi, une lame de 20 cm entre les épaules. Gros émoi dans les médias. Les politiques s'émeuvent et se répondent en louanges, sinon en lamentations. Les grands patrons balisent, craignant les attentats et la rectification individuelle des possédants. Les médias et les réseaux tirent des hypothèses, politiques ou histoire de cul. Le capital épinglé, titre Charlie en couverture, la caricature représente un moustique ayant la tête du milliardaire, piqué sur une planche au milieu d'une flopée de prolos à terre, dézingué, pompé, exsangue. Deux jours auparavant, au cours de la réunion du comité de rédac, consacrée au numéro spécial d'octobre, dont le titre qui tient la corde pour le moment est « Le capitalisme est-il soluble dans l'écologie ?» Pierre Gilles m'a commandé un article relatif à un type, chercheur autoproclamé qui venait de sortir chez Rouge Cargo, un essai intitulé « Biologie du capitalisme ». Avec le meurtre de Bernard Renault, il y a fort à parier que ce numéro sera réorienté et que mon article rejoindra la corbeille des bons papiers hors du champ de la brûlante actu. Enfin à destination. N'écoutant que mon professionnalisme, je sonne à la grille d'une bicoque en pierre meulière. Archétype du pavillon de banlieue, miteux, triste à mourir. On m'ouvre. Mon sujet est un petit bonhomme tout rond, en Marcel Pauffray, siglé Méluche, jean accordéon et charentaise. Un crâne lustré et des yeux qui brillent.
Entrez donc, je vous attendais.
J'aime bien sa voix, assurée, bien plantée, d'un ton mezzo voce. L'atmosphère est lourde de remugles, de pisse de chat et de mégots de gitane. Le fauteuil du salon dans lequel je dépose ma personne dispose d'un ressort saillant qui perturbe l'ordonnancement de mon string. Alors, pas question de s'attarder. Je recueille quelques éléments et je fuis. Je pose mon smart sur la table basse, encombrée de cendriers débordants. J'enregistre. Je vous passe les amabilités convenues avant de tailler dans le vif. Le type, Henri Yesourour, de son nom, m'entreprend illico sur le meurtre de Bernard Renault, avant que je lui pose la première question à propos de son livre.
Ah, je paierai cher pour assister à l'autopsie de ce champion capitaliste.
Et pour quelle raison ?
Ce serait l'occasion de vérifier la thèse que j'expose dans mon ouvrage « Biologie du capitalisme ».
J'y pense soudain, mon ancien flirt du lycée Charlemagne officie à l'Institut médico-légal de Paris où devrait être autopsié le cadavre de Bernard Renault. Je ne révèle rien à mon interlocuteur, mais germe en moi une idée dont la mise en œuvre requiert au préalable les révélations, les intuitions de cet Henri Yesourour qui paraît jubilé de l'attention que je lui porte. Et il s'apprête à dévoiler le contenu de son pensum de 842 pages. Fou, en substance, si vous voulez bien.
Bien sûr, je ne vais pas vous assassiner. Voilà, j'ai cherché dans la littérature l'histoire. Au cours de mes études multiples, dans plusieurs pays du monde, les plus développés comme ceux en cours de développement, ce qui pourrait révéler ou non d'un déterminisme conduisant à confirmer, à la suite de certains grands penseurs libéraux, que le capitalisme est un système consubstantiel à la nature humaine. La domination, la loi du plus fort, l'anthropophagie, l'esprit d'entreprise, le marché, l'accumulation, l'exploitation d'autrui, la soif de posséder, la propriété, la richesse libératrice des contingences, l'organisation étatique qui sédimente le système. Bref, toutes les tares que d'aucuns dénoncent à juste raison ne seraient-elles pas la conséquence de constituants biologiques de l'être humain, si l'on considère que toutes les tentatives ayant pour but de substituer le capitalisme par un autre système ont abouti à des échecs, qui ont vu à terme le retour d'un ordre capitaliste, même maquillé en communisme, comme en Chine.
Je le coupe et joue à la ramenarde. Mais l'anthropologie a repéré dans l'histoire de l'humanité des sociétés primitives, nomades principalement, qui ne connaissaient pas du tout cette organisation économique et par conséquent l'organisation étatique qui en découle.
Je vous l'accorde. Mais les conditions ultérieures ont mené toutes, peu ou prou, au système capitaliste.
Puis il me bassine avec d'autres approches, me cite les grands penseurs, les laudateurs ou les contempteurs du système. Enfin, il lâche la bombe à fragmentation.
On ne l'a pas encore trouvé, mais il y a dans le corps humain une glande, dans un endroit non découvert encore, qui secrète un enzyme, que sais-je, une hormone de l'appétence capitaliste, que je désigne sous le vocable l'appétit de lucre.
Sur cette dernière affirmation, il hoche la tête, les yeux à terre, mou en avant, pétrifié de certitude. La glande du lucre ! Lançais-je en réprimant un éclat de rire. Retour en RER, moins bondé. Je ferme les yeux en pensant que ce type est complètement barré. Mais il a semé dans mon crâne une graine qui germe au fil des minutes. Ma résolution est prise. J'appelle Simon Galmin, mon ami légiste. Hé Simon, arrange-moi le coup. Tu me files une blouse ? Ouais, un soir prochain. Promis.
Pince.
L'assistant s'exécute. Flic et procureur dansent d'un pied sur l'autre. À l'écart, un calepin à la main, mine concernée sous mon masque, j'étouffe, le bistouri ouvre, une gerbe affleure mes lèvres. Mon pote dicte ses constatations. Il décrit le ravage du couteau ayant sectionné la veine pulmonaire. Le cadavre du plus grand milliardaire de la planète au dernier classement Forbes pue la charogne comme le commun des mortels trucidés. Comment Simon peut-il supporter ça à longueur de temps? Puis il applique les protocoles. Après le crâne, les poumons, il explore les viscères, penché sur la béance sanguinolente.
Écarteur.
Soudain, j'entends...
Putain! Mais c'est quoi, ça?
Bon Dieu! Aurait-il découvert la glande du lucre, hypertrophiée? Bien visible de ce fait, naturellement, le scoop! C'est à ce moment-là que je me sens partir dans un endroit où un tas de pommes sert en temps ordinaire de matelas de fortune. La nouvelle que vous venez d'écouter est disponible sur toutes les librairies en ligne. À très bientôt pour partager ensemble l'heure noire de Max Aubiol.